Alors, est-ce que vous avez vos Bibles? Vous savez qu'un chrétien sans sa Bible, c'est comme un maître nageur sans son maillot de bain. Donc, il faut l'avoir. Mais Paul dit que c'est notre épée. Donc, il faut l'avoir, il faut savoir comment l'utiliser. Il y a 15 jours, j'ai eu l'occasion de prendre la parole. Et cette année, nous étudions le thème « Servir le Seigneur avec joie ». Il y a 15 jours, j'ai évoqué trois bonnes raisons de servir le Seigneur avec joie. Et j'aimerais repartir de cet endroit pour pouvoir approfondir un de ces points. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez des points, ils vont réapparaître. La première raison que j'avais évoquée il y a 2 semaines, la raison pour laquelle nous servons le Seigneur avec joie, c'est que nous voulons agrandir le royaume de Dieu. Un disciple s'attache et s'attarde et se met à la tâche pour agrandir le royaume de Dieu. Nous avions évoqué l'exemple biblique de Philippe, nous avions parcouru Philippe dans le livre des Actes pour voir à quel point et ce que nous pouvions apprendre de Philippe dans le service. Et la première chose, c'est qu'il avait servi dans son église locale de Jérusalem et il avait agrandi le royaume de Dieu dans sa ville. La deuxième chose que nous avions évoquée en évoquant Philippe, c'était qu'on sert le Seigneur pour pouvoir se découvrir. Donc dans Actes 8, Philippe s'était découvert dans un ministère d'évangéliste. Et la troisième raison qu'on avait vue, c'est que Philippe avait 4 filles vierges qui prophétisaient en Actes chapitre 21. Et la raison pour laquelle nous servons le Seigneur avec joie, c'est pour instruire, démontrer concrètement comment instruire sa famille dans les voies de Dieu et être un bon exemple pour nos enfants. Et en préparant pour ce week-end, j'avais beaucoup de choses qui tournaient en moi. Vraiment beaucoup de choses. Mais je pense vraiment avoir été conduit. Et ce soir et demain matin, j'ai envie d'approfondir le point 2, qui est celui de la découverte de soi-même. Comme je l'avais évoqué et dit, la plus grande découverte est la découverte de soi-même. Et ce soir, j'aimerais partager un principe très fort qu'on va voir dans la parole de Dieu. On va étudier 2 personnages dans la Bible pour voir comment on peut découvrir son ministère personnel en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous savez que vous avez un ministère en tant que disciple de Jésus-Christ? Vous avez non seulement un appel, mais vous avez aussi un ministère. Quand je parle de ministère, je fais référence à un service. Le mot ministère vient du grec diakonos, qui veut tout simplement dire, ou diakonia, pardon, qui veut dire service. Donc quand on dit par exemple un ministre des finances, on pourrait le traduire par serviteur des finances. D'accord ? Ministre des affaires étrangères, on pourrait dire qu'il est serviteur des affaires étrangères. Ou alors quand on parle d'un ministre de l'Évangile, on parle d'un serviteur de l'Évangile ou d'un serviteur de Dieu. Donc avec Philippe, nous avons évoqué le service dans le cadre de l'enceinte ou dans l'église locale, dans l'enceinte de l'église locale. Et ça, c'est la première des choses. Je crois qu'en tant que disciples de Jésus, nous devrions servir le Seigneur déjà dans notre assemblée, là où Dieu nous place, dans notre famille spirituelle. Donc, nous devrions servir dans l'enceinte de notre église locale. Donc, nous avons tous un ministère que j'appellerais intérieur. Un ministère dans l'enceinte de notre église. À nous de le trouver, mais nous en avons un. Certains ont le ministère de la prédication, d'autres ont le ministère de l'adoration, d'autres ont le ministère de l'enseignement, certains ont le ministère des finances, le ministère des enfants, peu importe ce que l'on fait finalement, mais chacun devrait trouver sa place de service ou trouver son ministère à l'intérieur des murs de l'Église. Mais ce n'est pas tout, parce que lorsqu'on parcourt le livre des Actes, on voit que les disciples n'avaient pas seulement un ministère dans l'enceinte de l'Église locale, ils avaient aussi un ministère en dehors des murs. Donc, il y a 15 jours, j'ai parlé du ministère à l'intérieur de l'Église, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de votre ministère en dehors de l'Église locale. Toujours intéressé? Alors, je vais évoquer 3 personnes pour commencer et introduire ce message. 3 personnes qui ont changé la face du XXe siècle. La première personne, c'est Mère Teresa. Certains ont dit d'elle que c'était la femme la plus puissante du monde. Et les trois personnages historiques que je vais évoquer du 20e siècle, vous allez voir que ces personnes ont un point en commun. Et ce point en commun, il va falloir qu'on le décèle dans notre propre vie pour pouvoir avoir un impact dans notre vie en tant que disciple. Vous savez qu'un disciple a un impact pour le royaume de Dieu. Et j'ai choisi, en premier exemple, Mère Teresa, née en 1910 dans une ville qui s'appelle Skopje, qui était la Macédoine, qui est devenue par la suite l'ex-Yougoslavie, morte en 1997. Et cette femme a eu un appel pour la mission. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979 et un des secrétaires des Nations Unies a dit que cette femme était une des femmes les plus puissantes du monde. Cette femme a défié les dirigeants du monde entier parce qu'elle avait un service en dehors de son église locale. Son service à elle, c'était de servir les plus pauvres d'entre les plus pauvres. Elle a été envoyée en Inde, à Calcutta, mais elle n'a pas été envoyée en Inde premièrement pour servir les pauvres. Elle a été envoyée en Inde tout d'abord pour enseigner la géographie. Mais un jour, l'année 1946, le 10 septembre, Mère Teresa reçoit un appel ou un ministère divin. Lorsqu'elle est en train de traverser la misère de l'Inde, quelque chose se passe à l'intérieur d'elle et elle a appelé ce jour le jour de l'inspiration. Elle avait alors 36 ans et c'est là, quand elle a vu la misère et la pauvreté qu'il y avait dans ce pays, qu'elle va arrêter d'enseigner la géographie et qu'elle va commencer à se consacrer envers les personnes les plus démunies qu'il y avait dans ce pays d'Inde. Mère Teresa avait un tel cœur de compassion qu'elle a dit, s'il y a des pauvres sur la lune, nous irons aussi. Pour elle, le fait de croire en la résurrection de Christ et de voir la mort triompher dans les rues de Calcutta était inacceptable. Lorsqu'elle a vu la misère, elle a découvert son ministère. Et vous allez voir que peu importe la personne que je vais évoquer, c'est ce que je vais évoquer ce soir avec vous. Si vous voulez trouver votre ministère, il faut trouver la misère que vous voulez changer. Et pour Mère Teresa, la misère qu'elle voulait changer, c'était les plus pauvres de Calcutta. Elle a décidé de consacrer toute sa vie à ces personnes pour pouvoir leur donner de la dignité et les élever. Elle avait le cœur du Dieu le Père. Elle en était le reflet. Vous savez quoi ? Moi, je pense qu'on peut apprendre quelque chose d'elle en ce qui concerne le service. Qu'est-ce que vous pensez ? Elle qui a décidé de s'abaisser, elle a côtoyé les plus grands. Elle qui a décidé de servir ceux que la société considérait comme des moins que rien, c'est elle qui a défié les dirigeants occidentaux les plus puissants du monde pour faire quelque chose pour la pauvreté dans le monde. Vous voyez que la voie dans le royaume pour monter, il faut d'abord descendre. Elle a osé descendre et le monde l'a élevée à un tel point qu'à l'époque, elle s'appelait Sœur Agnès. Maintenant, on la nomme Mère Teresa et on la considère comme sainte dans l'Église catholique et on l'appelle la femme au sari bleu et blanc, etc. Elle a plein de surnoms, mais elle a été canonisée par l'Église catholique aussi. Et regardez ce qu'elle dit en ce qui concerne le service. Elle nous donne une clé. Elle dit « ce qui compte ». Comprenez dans le service. Ce n'est pas de faire beaucoup. On peut se disperser dans notre service. On peut faire beaucoup de choses. Mais elle dit, ce qui compte, c'est de mettre beaucoup d'amour dans ce que l'on fait. Donc, ce n'est pas la quantité de choses que l'on va faire. Ce n'est pas la quantité de services que l'on va faire qui va compter. Mais c'est le fait de mettre beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, que ce soit pour le Seigneur ou que ce soit pour les autres. La deuxième personne qui a chamboulé l'histoire du XXe siècle, c'est le docteur Martin Luther King. Rien que d'évoquer son nom, ça m'évoque quelque chose. Martin Luther King, né en 1929 à Atlanta, dans l'État de Géorgie, vous voyez qu'il n'est pas mort très vieux. Il n'a pas vécu longtemps, mais il a fait une différence pour l'histoire. Vous voyez qu'il est mort à 39 ans, en 1968, assassiné à Memphis, dans l'État du Tennessee. Martin Luther King était un ministre de l'Évangile de la dénomination baptiste aux États-Unis. Mais finalement, ce n'est pas pour son côté révérent qu'il a été le plus connu. Martin Luther King a été connu pour avoir été le symbole de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Pour lui, c'était inacceptable. Si vous voulez trop vivre votre ministère, vous devez trouver ce qui est inacceptable pour vous. Pour Martin Luther King, pour Dr. King, ce qui était inacceptable, c'est que des gens n'avaient pas les mêmes droits en fonction de la couleur de leur peau. Et pour lui, ça, c'était intolérable. Il a trouvé son ministère quand il était dans la misère avec son peuple. Qu'est-ce qui est inacceptable pour vous? Qu'est-ce que vous ne tolérez pas, vous? Quelle est la misère que vous voyez avec votre propre cœur? Parce que ça, ça va être la clé pour déclencher votre ministère en dehors des murs de l'Église. Le Dr. King avait un ministère. Il était révérend. Mais son ministère en dehors des murs de l'Église, c'est celui-là pour lequel il a été connu. Il a décidé de se lever pour faire en sorte que tous les Américains, peu importe leur couleur de peau, puissent avoir accès aux mêmes bibliothèques, aux mêmes établissements publics, aux mêmes universités. Et vous savez quoi? Il y croyait tellement qu'il est mort pour cette cause. Dr. King est mort pour cette cause. Et il a dit ceci: si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, tu n'es pas vraiment digne de vivre. Est-ce que le Seigneur Jésus avait une cause? Et en lien avec le service, Dr. King a dit ceci: tout le monde est important. Non, mais même moi, tout le monde est important. Car tout le monde peut servir à quelque chose. Et si tes profs d'école, ou même si tes parents t'ont dit quelque chose dans le passé que tu ne servais à rien, c'est un mensonge. Tout le monde est important. Parce que tout le monde peut servir à quelque chose. Mais la chose que tu vas servir, c'est quoi? Dr. King, ce qu'il a servi, lui, c'était son propre peuple. Les Afro-Américains. Mère Teresa, celle qu'elle a décidé de servir, c'était les plus pauvres de Calcutta. Mais qu'est-ce que toi, tu vas servir? Là, je vous parle du service en dehors de l'Église. Je ne vous parle plus du service dans l'enceinte de l'Église locale, même si je crois que chacun devrait trouver son ministère dans l'Église locale. Mais on a aussi un ministère ou un service en dehors de l'Église locale. Et la troisième personne, les jeunes adultes m'ont souvent entendu évoquer ces trois personnes, moi qui aime beaucoup l'Afrique du Sud, j'y suis allé 5 fois à peu près, c'est bien sûr Nelson Mandela. Troisième personnage qui a marqué l'histoire du XXe siècle, né en 1918 dans la province du Eastern Cape, mort en 2013 dans la province du Gauteng, là où nos amis les Chapalins ont déménagé récemment. Voilà Nelson Mandela. Nelson Mandela, de formation, c'était un avocat. Mais ce n'est pas pour son côté maître Mandela, on le surnommait Madiba, qu'il a été connu. Et il a été connu pour son ministère. Oh, il ne l'appelait pas forcément un ministère, lui. Dr. King et Mère Teresa, on sait qu'ils croyaient certainement au Seigneur Jésus. Nelson Mandela, ça a toujours été un petit peu un mystère, même si les valeurs qu'il développe sont, on pourrait dire que c'est des valeurs chrétiennes. Mais on ne sait pas s'il a vraiment connu le Seigneur de son vivant. Mais Nelson Mandela, avocat de formation, mais la raison pour laquelle il a été connu, c'est parce qu'il a été le symbole de celui qui a voulu cesser le régime ségrégationniste qu'on a appelé l'apartheid, qui était un régime légal en Afrique du Sud qui donnait à nouveau des droits différents en fonction de la couleur de peau des gens. Et en Afrique du Sud, vu que j'y suis allé, je connais bien, vous aviez les Blancs qui étaient la première classe, vous aviez ceux qui étaient les Indiens, et puis les Coloured, les Métis, qui étaient au milieu, et ensuite les Noirs étaient ceux qui avaient le moins de droits dans ce régime qu'on a appelé de séparation ou de ségrégation de l'apartheid. Et vous savez quoi? Nelson Mandela a dû être emprisonné 27 ans pour la cause en laquelle il croyait. Alors, tout le monde veut la notoriété de Mandela, mais est-ce qu'on est prêt à payer le prix de Nelson Mandela? Et vous savez ce qu'il a dit quand il est sorti de prison? Si je ne pardonne pas, je vais rester en prison. Ça pourrait être un verset biblique, hein. Et il a dit ceci: le pardon libère l'âme. Il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Mais pourquoi, Philippe, tu nous parles de ces trois personnes? Je vous parle de ces trois personnes de l'histoire contemporaine parce qu'ils ont un point en commun et c'est celui qu'il va falloir découvrir dans notre propre vie si nous voulons déclencher notre ministère à l'extérieur des murs de l'Église. Ces trois personnes ont le point commun suivant. Ils ont fait de leur misère leur ministère. Ce qu'ils ne toléraient pas, ils ont décidé de le changer. Ce qui était inacceptable pour eux, ils ont décidé de faire quelque chose. Alors peut-être qu'ils ont prié à Dieu. Et moi, vous savez comment Dieu leur a répondu? Tu me demandes de faire quelque chose, mais c'est toi que j'ai demandé de changer. Et il va te donner sa force, et il va te donner sa joie, et il va te donner sa persévérance, et il va te donner sa perspicacité, et il va te donner sa puissance pour pouvoir changer ce que ton cœur ne tolère pas. Mais il faut, avant de trouver ton ministère, tu dois découvrir la misère qui fait pleurer ton cœur. Pour Nelson Mandela, c'était clair. Pour Dr. King, c'était clair. Pour Sœur Teresa, c'était clair. Qu'en est-il de nous? Quelle est la misère que nous voyons avec notre cœur? Pour certains, ça va être les enfants qui n'ont pas à manger. Pour d'autres, ça va être l'économie dans son pays. Pour d'autres, ça va être la corruption politique. Peu importe. Pour certains, ça va être l'entrepreneuriat en France. Pour d'autres, ça va être le FN qui monte en France. Certains s'en réjouissent. Peut-être pour toi, ce n'est pas un sujet de joie. Peu importe. Vous savez que chez les chrétiens, il y a plein de bords politiques différents. Mais avant, si tu veux trouver ton ministère, tu dois découvrir ce qui fait pleurer ton cœur avant. Avant de servir le Seigneur avec joie, on va le voir dans les Écritures, il va falloir que tu trouves ce qui fait tomber les larmes de tes yeux. Qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur? De façon, je vais d'abord parler de l'appel et du ministère du disciple en général, et après je vais revenir sur l'aspect spécifique. Jésus a dit, suivez-moi. Et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alors vous savez que dans l'Église, surtout depuis le mouvement charismatique, il y a toujours eu cette question, quel est mon appel à moi et quel est mon ministère à moi? Toujours cette idée de trouver ça. De façon générale, pour vous dire, en tant que disciples, nous avons tous le même ministère et le même appel. L'appel de chaque disciple, c'est « suis-moi », dit Jésus. Ton appel, c'est tout simplement de suivre Jésus. Et une fois, il y a une jeune fille, elle me dit, mais Philippe, c'est incroyable, tu voyages pour le Seigneur et tout, c'est génial, mais comment ça s'est passé pour toi? Et je lui ai répondu comme ça. J'ai dit, suis le Seigneur et ta destinée te suivra. Tant que tu suis le Seigneur, c'est comme si ta destinée était attachée à toi. Mais dès que tu lâches le Seigneur, tu es en train, ta destinée est en train de te lâcher. Donc l'appel de chaque disciple, c'est de suivre Jésus, peu importe le coût qu'il va falloir être prêt à payer. Même quand ça devient dur, le disciple continue de suivre le maître, même si ce n'est pas évident. Donc ça, c'est l'appel. Quand Jésus disait « Suivez-moi », il vous dit la même chose. « Suis-moi », ça, c'est l'appel de chaque disciple. Après, il y a des appels spécifiques, mais ça, c'est l'appel de chacun d'entre nous. Le ministère que nous avons tous reçu, c'est le ministère de pêcher des hommes pour faire une différence pour l'éternité. Ça, on l'a tous reçu. Savoir emmener quelqu'un au Seigneur, savoir partager l'évangile avec quelqu'un, nous avons tous reçu ce ministère-là. Donc, suivre Jésus, c'est notre appel. Pêcher des hommes, c'est notre ministère. Donc ça, c'est général, vous êtes d'accord? Mais maintenant, pour pouvoir trouver ton ministère spécifique, il va falloir revenir à cette question de misère, parce que pour trouver ton ministère, tu dois d'abord trouver la misère que tu veux corriger. Et souvent, c'est dans la misère dans laquelle tu étais toi dans ta propre vie. Si tu viens d'un foyer brisé, tu auras un ministère de faire des familles fortes. Si tu n'as pas eu accès à l'éducation, ton ministère sera de faire en sorte que d'autres enfants aient accès à l'éducation. Si tu as galéré toute ta vie dans tes finances et tu t'en sors, ton ministère sera de faire en sorte d'aider d'autres à gérer leurs finances. Trouve pas, arrête de chercher ton ministère. Trouve ta misère. Trouve ce que tu veux changer. Trouve là où tu veux faire une différence. C'est ça la clé. Nelson Mandela, il a dit, j'ai pas eu une grande vision. J'ai pas eu un éclair dans le ciel. Mais il a dit, à force de voir mon peuple opprimé et oppressé, je ne supportais plus. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre un éclair dans le ciel pour trouver votre ministère. Il faut juste trouver ce que vous ne supportez pas dans votre cœur. Et votre vie va être une solution à un problème que votre cœur a décelé. Ta vie est une solution à un problème. Mais les gens, ils veulent d'abord trouver la solution. Et moi, je dis non, cherche le problème. Et quand tu as trouvé le problème, tu te positionnes ta vie comme une solution à ce problème. Et là, tu as déclenché ton ministère. J'ai écrit la phrase suivante. Notre ministère personnel, donc là, je reviens personnel. Vous êtes tous d'accord que vous avez un ministère dans l'église locale et en dehors ? On a établi cette base. Notre ministère personnel, en lien avec nos thèmes de l'année, vous savez quoi ? Il ne commence pas dans la joie. Il commence dans la tristesse. On va servir le Seigneur avec joie. Mais vous savez que ces trois personnes, Mère Teresa, elle a dû être accablée de voir cette pauvreté. Elle a dû être dans la tristesse. Pendant ses 27 ans de prison, Nelson Mandela, je suis sûr qu'il y a des larmes qui ont coulé. Martin Luther King, pareil. Et nous allons voir deux personnages dans la parole de Dieu où les larmes ont réellement coulé, mais c'était le début de leur ministère pour l'Éternel. Donc notre ministère personnel, il ne commence pas dans la joie, il commence dans la tristesse, il peut même commencer dans les angoisses, il peut commencer quand ton cœur est serré. Parce qu'il y a quelque chose que tu ne tolères pas autour de toi, mais tu dois le savoir pour toi-même, tu ne peux pas prendre l'exemple de quelqu'un d'autre. Pour certains, le fait que des enfants soient orphelins, ils vont passer tout droit. Mais toi, ça te serre le cœur. Tu t'arrêtes. Certains de voir des gens qui crèvent de faim, ils passent tout droit. Mais toi, ton cœur l'a vu, tu ne le tolères pas. Certains, la corruption politique qu'il y a dans ton pays, ils s'en fichent. Mais toi, ça ne passe pas. Qu'est-ce qui serre ton cœur ? Qu'est-ce qui te rend misérable. Qu'est-ce qui te fait pleurer le soir? Dans la parole de Dieu, j'ai choisi deux personnages. Et pour être vraiment sur un pied d'égalité, j'ai choisi une femme et un homme. Vous savez quoi? J'aurais pu choisir Moïse. Parce que Moïse, il était bien en Égypte, chez Pharaon. Traité comme un roi, etc. Mais vous savez quoi? Il a plus toléré de voir son peuple dans l'esclavage. J'aurais pu choisir Élie, alors que le peuple d'Israël est en pleine apostasie, en train de s'éloigner de Dieu. Le ministère d'Élie a ressurgi parce qu'il ne pouvait pas supporter que le peuple s'éloigne de son Dieu. Mais je me suis dit, Moïse et Élie, c'est quand même des calibres. Prenons des personnages peut-être un peu plus communs. Et j'ai choisi Anne. 1 Samuel, si vous voulez bien tourner, chapitre 1. Est-ce que vous êtes content de découvrir votre ministère ce soir ? 1 Samuel, chapitre 1. Et nous allons voir l'histoire d'une femme qui s'appelle Anne. On ne parle plus beaucoup de Anne après ce chapitre-là. On parle d'une autre Anne dans le Nouveau Testament, mais on comprend bien que ce n'est pas la même. Donc, on va lire quelques versets ici. Et on va voir une femme qui a été dans la tristesse, on va voir une femme qui a été dans l'angoisse, on va voir une femme qui a été dans la tourmente. Mais vous allez voir que c'était le début de son ministère pour le Seigneur. Ton ministère, je le redis, ne commence pas dans la joie, il ne commence pas dans l'exaltation, il ne commence pas en faisant des bons, sautiller de joie, louer le Seigneur. Hein? Il commence quand tu es à genoux dans ta chambre, en train de pleurer. Et en train de te demander, pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Pourquoi Seigneur ? Vous êtes là en 1 Samuel 1 ? Ayez de la grâce pour moi parce que les premiers mots à prononcer, l'Ancien Testament pour quelqu'un qui prêche la parole de Dieu n'est jamais facile. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsup, Ephratien. Verset 2. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Donc vous comprenez ici qu'il y a un homme qui s'appelle Elkana. Il a deux épouses. Une s'appelle Pénina, qui était fertile, et l'autre s'appelait Anne, qui était stérile, et ça va être la raison de son angoisse, vous allez voir. Verset 3, « Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, qui était un sacrificateur, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. » Verset 4, « Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. » Donc on voit que Pénina, non seulement, elle n'avait pas seulement un fils ou une fille, elle avait plusieurs fils et plusieurs filles. Vous vous rendez compte pour Anne qui est l'autre femme, l'angoisse ? Elle, elle n'a aucune descendance et l'autre épouse, elle a plein de fils et plein de filles. Résultat, Pénina va se moquer. Je ne sais pas si c'est ce qu'on fait entre femmes, quand on a des bébés et l'autre n'en a pas, mais en tout cas, c'est ce que Pénina a fait. Elle va se moquer d'Anne qui était stérile. Verset 5. « Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. » Heureusement, Elkana avait quand même une préférence pour celle qui n'avait pas encore d'enfant. Verset 6. « Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. » Verset 7. « Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Et regardez, Anne, elle n'a pas commencé dans la joie. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé ?» Est-ce que Anne est dans la joie ou est-ce qu'elle est dans la tristesse? Elle est dans la tristesse. Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme. Est-ce qu'elle était dans la joie ou est-ce qu'elle était dans l'amertume? L'amertume dans l'âme. Sa situation l'a tellement affectée. C'était tellement en train de la ronger. Qu'est-ce qui est en train de te ronger? Qu'est-ce qui te rend amer dans l'âme? Ça va être la clé pour débloquer ton ministère. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Vous voyez qu'elle n'était pas en train de pleurer de joie. Elle était en train de pleurer de tristesse. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Donc vous voyez que Anne fait une prière. Elle a l'amertume dans l'âme, mais elle demande au Seigneur un fils. Comment va s'appeler le fils de Anne? Samuel. Merci beaucoup. Verset 12. « Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle y observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'en entendait point sa voix. Elle y pensa qu'elle était ivre. » Non, mais cette femme est dans la douleur et le sacrificateur pense qu'elle est ivre. Et elle lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ?» Il lui pose en plus la question, « Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mais Élie, ce n'est pas ça le problème. » « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. » Elle, sa stérilité était une souffrance en son cœur. Quelle est la souffrance dans ton cœur? Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Verset 16. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, attention, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. L'homme de Dieu qui s'appelle Élie, le sacrificateur, est en train d'annoncer à Anne que la prière qu'elle a faite au Seigneur est en train d'être exaucée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Et vous savez que quand quelqu'un recommence à manger, c'est en général bon signe. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Quelque chose a changé dans cette interaction avec Élie. Ils se levèrent de bon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Et la bonne nouvelle arrive, Elkana, donc le mari, connut Anne, la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, sa femme, et l'Éternel, comme on l'a vu avec Corneille, se souvint d'elle. Elle s'est souvenue de la prière qu'elle lui avait adressée. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Quelque chose a changé quand l'Éternel a exaucé sa prière. Elle qui était dans l'amertume, elle qui était dans l'angoisse, elle qui était dans les pleurs. Quelque chose change. L'Éternel intervient et elle va lui donner un fils. Vous savez quoi? Sa tristesse s'est transformée en joie en 1 Samuel chapitre 2 verset 1. Anne pria et dit. Donc on voit ici avec Anne, elle était d'abord une femme triste avant de trouver la joie. Pour trouver ton ministère, il va d'abord falloir être dans la misère. Pas dans la misère matérielle, mais dans la misère de ton cœur. C'est la clé pour débloquer ton ministère, ton service en dehors de l'Église. Et là, mon cœur se réjouit. Oh là là, mais c'est plus la même femme. Elle qui était dans les pleurs, dans l'amertume, maintenant elle dit qu'elle se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ton secours. La tristesse de Anne s'est transformée en joie parce que l'Éternel a exaucé sa prière et maintenant elle a un fils qui s'appelle Samuel. Le ministère d'Anne est né dans la misère de ses larmes et son ministère consistait à consacrer Samuel, un homme de Dieu. Depuis Josué jusqu'à Samuel, c'est la période des juges dans la parole de Dieu. De Josué, de la mort de Josué jusqu'à Samuel, c'est ce qu'on appelle la période des juges dans la parole de Dieu. Et Samuel est le dernier juge. Il n'était pas seulement juge, il était aussi prophète. Et c'est lui qui va oindre Saül, et c'est lui qui va oindre David, qui va être dans la lignée du Messie. Elle a donné naissance à la vocation de Samuel. Elle a donné naissance à un homme de Dieu qui a eu une importance capitale dans l'histoire de l'Ancien Testament. C'était son ministère. Tu te dis, mais moi je suis juste une maman à domicile. Si tu es en train d'élever un enfant dans les voies de Dieu, c'est un ministère prestigieux. Allô mesdames, les mamans, vous m'avez entendu? Si votre ministère, c'est d'élever des enfants dans les voies de Dieu, c'est un ministère prestigieux. Parce qu'on n'entend plus trop parler de Anne après. Oh, on entend parler de Anne. Vous savez quoi? L'Éternel lui a donné d'autres fils et d'autres filles. Parce qu'elle l'a consacré à l'Éternel, comme elle l'avait demandé dans sa prière. Dieu lui donne d'autres filles et d'autres fils. Regardez, et là on va finir avec Anne. 1 Samuel chapitre 2, verset 20. Élie bénit Elkana et sa femme en disant « Que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. » Verset 21. « Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel, le premier, grandissait auprès de l'Éternel. » Vous voyez que Dieu a fait grâce à Anne. Non seulement il lui a donné Samuel, mais il lui a donné encore 3 fils et 2 filles. Je fais juste une parenthèse ici. Dans toute la Bible, il y a ce qu'on appelle le principe des prémices. Les prémices, c'est ce qu'on donne en premier à Dieu. Par exemple, la dîme, c'est le fait, non seulement c'est le dixième de ce qu'on donne à Dieu, mais c'est aussi ce qu'on donne en premier à Dieu. Quand Anne a consacré Samuel à Dieu, est-ce que ça a été une source de bénédiction ou est-ce que ça a été une source de malédiction pour sa vie? Il y a eu une multiplication. Quand on donne à Dieu ce qui lui revient en premier, il y a la bénédiction de l'Éternel. C'est un principe qu'on retrouve dans toute la parole de Dieu. On le retrouve avec Abel et Caïn. Un a donné les premiers fruits, l'autre n'a pas donné. On le retrouve dans l'histoire de Josué. Lorsqu'ils n'étaient pas censés toucher la première ville qu'ils ont conquise, alors qu'ils l'ont touchée, ça a été une catastrophe. Quand ils sont arrivés à Haï, ils se sont fait détruire. Ils n'avaient pas le droit de toucher le butin de Jéricho. On ne touche pas ce qui revient à Dieu. C'est saint, c'est consacré, et ça lui appartient. Et c'est ce qu'a fait Anne. Elle a mis à part ce premier enfant, elle l'a consacré à Dieu, qui est devenu un homme de renommée dans l'Ancien Testament. Mais vous voyez que ce ministère qui était celle d'élever cet enfant dans les voies de Dieu, il est né dans les larmes, il est né dans les pleurs, il est né dans l'amertume. Elle avait de l'amertume dans l'âme. Quelle est l'amertume dans ton âme? Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Quelle est la misère que tu vois en toi? Est-ce que c'est comme Martin Luther King? Problème entre les gens de différentes couleurs? Est-ce que c'est comme Mère Teresa, de croire en la résurrection de Jésus, et pour toi le fait de voir la maladie et la mort triompher, cette misère-là, tu ne la tolères pas. Ou alors c'est comme Anne. Il y a un désir d'enfant. Mais cet enfant ne va pas juste être un enfant. Il va être le premier-né, un juge, le dernier d'Israël, un prophète qui va oindre le premier roi d'Israël. Elle n'a pas juste donné naissance à un enfant. Elle a donné naissance à un homme de Dieu. Voilà pour Anne. On va étudier un homme pour terminer. On va étudier Néhémie. Allez dans Néhémie, qui est un petit peu avant les psaumes. Néhémie chapitre 1. Décidément, ce soir, Hébreux 1, 1 Samuel 1, Néhémie chapitre 1. On est de retour au commencement. Mais on va voir qu'il y a Anne qui a commencé dans les pleurs. Mais on va voir que Néhémie a trouvé son ministère à genoux, en train de prier et de pleurer. Qu'est-ce qui te fait prier et pleurer? Ne me dis pas que tu es insensible à tout ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas être insensible à un avion qui vient de s'écraser dans une montagne. On ne peut pas. Qu'est-ce qui te fait mettre à genoux et qui te fait prier? Je vais vous dire dans un instant, après Néhémie, ce qui me fait mettre à genoux et prier. Parce que ce que je suis en train de vous partager, ce n'est pas juste quelque chose qu'on voit dans l'histoire biblique ou contemporaine. Je l'ai vécu. Un jour, l'Esprit de Dieu a saisi mon cœur. Je vais vous le raconter après. Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale. Hanani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Pour bien comprendre le contexte de Néhémie, le temple est détruit. Du temps de Daniel, quand il y a eu la destruction du temple, la première fois, les Juifs ont été déportés à Babylone. Daniel faisait partie de ceux-là. Donc depuis cette époque, le temple, alors que dans l'Ancien Testament, tout tournait autour de la loi et du temple, le temple est détruit. Et ici, Néhémie, qui était aussi lui déporté, il était échanson du roi de Perse, c'est-à-dire qu'il devait être tester les vins pour le roi, pour pas que le roi, c'est lui qui mourait avant. Ça, c'était le rôle de Néhémie. Donc, il est aussi déporté. Et tout d'un coup, quelques-uns, juifs, lui donnent un rapport de ce qui se passe réellement à Jérusalem. Néhémie va tellement être accablé par cette nouvelle qu'on va voir qu'il va commencer à pleurer. Verset 3, ils me répondirent. Ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province. Donc, on parle de ceux qui sont restés à Jérusalem. On parle des frères de sang. Donc des Juifs qui sont restés à Jérusalem alors que Néhémie est ailleurs. Au comble du malheur et de l'opprobre, ou en français courant, de la honte. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Le rapport que Néhémie reçoit de Jérusalem, c'est que les portes et les murailles sont détruites et elles sont consommées par le feu. Tout est détruit. Ça a été l'œuvre des Babyloniens. Regardez verset 4. On ne va pas aller plus loin, mais regardez verset 4. Je l'ai aimé dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. » Et après, il va faire une prière. Donc on voit un homme qui apprend une nouvelle. Cette nouvelle n'a pas seulement touché sa tête, elle a touché son cœur. Il voit son peuple qui est dans la honte. Il voit son peuple qui est dans l'humiliation. Il ne l'accepte pas. Il dit, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Éternel, tu nous as dit certaines choses. Mais maintenant, je suis en train de pleurer sur cette condition. Je suis en train de jeûner sur cette condition. Je ne peux pas tolérer que ma ville et mon peuple soient détruits et que leur prestige soit anéanti à toujours. Et vous savez quoi ? Néhémie par son ministère. Ça, c'était sa misère. Mais son ministère avec Esdras seront les deux pionniers de la reconstruction du nouveau temple de Jérusalem. Néhémie, ce sera plutôt la muraille. Vous savez quoi? Là, il était dans l'angoisse. Là, il était dans les pleurs. Là, il était en train de jeûner. Là, il était assis. Là, il était accablé. La description de sa misère, vous êtes d'accord? Mais vous savez quoi? Une fois que la muraille a été construite, après 52 jours, la joie a éclaté dans la ville. Néhémie chapitre 12. On parle de servir le Seigneur avec joie, mais là on voit plusieurs personnes qui ont commencé plutôt dans le désarroi. Ah tiens, joie et désarroi. Commencer dans le désarroi. Néhémie 12, verset 43, je crois. Oui. Néhémie 12, verset 43. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices. Donc comprenez qu'ici, on est en train de célébrer la fin de la muraille qui a été reconstruite. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances. Donc là, on n'est plus dans l'amertume, on n'est plus dans les pleurs. Car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Donc là, les sacrificateurs et les lévites sont en train de consacrer la nouvelle muraille à l'Éternel. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. Vous savez quoi? La joie est revenue parce qu'un homme n'a pas accepté. Un homme qui a trouvé cette condition misérable. Peut-être que tous les autres ont vu la même condition, mais pour Néhémie, ça n'a pas passé. Dieu a saisi son cœur dans cette misère qu'était Jérusalem. Et ça a été la naissance de son ministère de reconstruire la muraille de Jérusalem. Mais vous savez que c'était bien plus que reconstruire la muraille. C'était reconstruire le prestige d'Israël dans toute la région. Vous savez quoi, votre ministère, ça va être quelque chose de précis. Mais si, par exemple, vous avez envie d'aider des couples forts, c'est plus que d'aider des couples forts. C'est de baisser le taux de criminalité dans le pays. Parce que quand les familles sont fortes, le taux de criminalité descend. Principal problème en Afrique du Sud dans les townships, c'est l'absence de pères. Donc en fait, ton ministère, ça va être quelque chose de précis, mais en fait, il faut le connecter à quelque chose qui est plus grand. Et quand ton cœur pleure sur quelque chose qui fait aussi pleurer le cœur de Dieu, là, tu as décroché la clé. Quand ton cœur pleure sur quelque chose qui fait aussi... Est-ce que Dieu pleurait que son temple soit... Moi, je pense que oui. Quand ton cœur pleure sur quelque chose qui fait aussi pleurer le cœur de Dieu, tu as découvert ta misère qui est le début de ton ministère. Je finis par mon témoignage. Octobre 2013. 31 octobre. Pas très loin, ça date pas de très longtemps. Je lis un livre que je passe pas beaucoup de temps d'habitude, le livre d'Agé. Prophète de l'Ancien Testament, etc. Tiens, ça parle aussi de reconstruction du temple. Ce livre est en train de dire que le peuple de Dieu, Agé donne une exhortation de reconstruire le temple. Mais le peuple, il dit, non, mais ce n'est pas vraiment le temps de remplir le temple de Dieu. Nous, on est en train de faire nos maisons lambrissées, on est en train de faire construire nos maisons, tout va bien, la maison de Dieu, ça attendra. Et le prophète Agé parle par l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de dire, vous êtes en train d'abandonner la maison de Dieu pour construire vos propres maisons et considérez attentivement vos voies. Et ce jour-là, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu. J'ai commencé à pleurer dans mon salon. J'ai dit, mais Père, pourquoi tes enfants abandonnent la construction de l'église? Pour construire leur propre maison. La promesse, c'est quand on construit la maison de Dieu, tu vas construire notre maison aussi. Mais certains, ils veulent juste construire la maison et abandonner la maison de Dieu et la construction de l'église. Et j'ai commencé à m'effondrer. Et aujourd'hui, ma vision personnelle, est basée sur Matthieu 16, 18, qui dit « Je bâtirai mon église », a dit Jésus. Et les 16 jours des portes des morts ne prévaudront point contre elle. Mon mandat sur la terre, si vous le résumez à deux choses, bâtir son église. Et aujourd'hui, j'ai été établi dans un ministère pastoral, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et vous savez quoi? D'abord, il faut découvrir sa misère avant de débloquer son ministère. Dans quel cas l'Esprit de Dieu a saisi ton cœur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? Deux questions. Elles sont simples, mais peut-être qu'elles ne vont pas vous aider à dormir. Première question, qu'est-ce qui fait pleurer ton cœur? On a vu ce qui faisait pleurer le cœur de Anne, on a vu ce qui faisait pleurer le cœur de Néhémie, on a vu ce qui a fait pleurer le cœur de Mère Teresa, etc. Mais qu'est-ce qui fait pleurer maintenant ton cœur? Je vous ai expliqué ce qui faisait pleurer mon cœur. Et je ne savais pas, une fois j'étais à un séminaire de leadership qui parlait que de la construction de l'église locale. Et je me suis passionné sur ce sujet, j'ai étudié, je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi je suis passionné par ça? Parce qu'il m'a mandaté d'édifier l'église. Mais vous, c'est quoi? Deuxième question. Que vas-tu faire pour transformer tes larmes de tristesse en larmes de joie? Et ça, c'est ton ministère. Quand tes larmes de tristesse, tu vas faire en sorte qu'elles soient des larmes de joie. Aujourd'hui, j'ai une joie indescriptible à bâtir l'église. Mais ça a commencé dans mon salon avec des larmes en lisant le prophète Agé. Quand tu vas et tu es en train de dire au Seigneur, « Pourquoi tu fais rien, Père? Tu pleures !» Et lui, il est en train de te dire, « C'est parce que c'est toi. C'est ta vocation. C'est ton ministère. C'est ça à quoi je t'appelle. » Et vous savez, une grande partie de mon ministère quand je voyage, c'est d'aider les gens à trouver leur ministère. Ce message, c'est la première fois que je le prêche, mais beaucoup, ce qui revient souvent en moi, c'est d'aider les gens à trouver leur vision, aider les gens à trouver leur don, aider les gens à trouver leur ministère, aider les gens à trouver leur vocation. Ça revient sans cesse. Pourquoi? Parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver la mienne. J'ai des amis depuis l'enfance, ils savent. Je vais être médecin. Aujourd'hui, ils sont médecins. Mais moi, jusqu'à presque 30 ans, je savais que j'avais un potentiel, je savais que j'avais des capacités, je savais que j'avais des aptitudes, mais je ne savais jamais dans quel contexte ça allait rentrer. C'est comme si j'étais un rond, que j'essayais de rentrer dans un carré, ça n'allait pas. Et le jour où j'ai compris que Dieu m'appelait au ministère, tout a pris du sens. Mais ça, c'était ma misère à moi. J'ai mis du temps à trouver ma voie professionnelle. Moi, maintenant, c'est une voie ministérielle. J'ai mis du temps. Mais vous savez quoi? Maintenant, mon ministère consiste à aider ceux qui se cherchent. Ceux qui doivent se découvrir. Parce que quand tu te découvres, ça, c'est du fun. Tu veux la clé d'une vie réussie? Quand ta misère devient ton ministère et quand ton ministère devient ta carrière, la vie est fun. Je répète, quand tu as trouvé ta misère, tu en fais ton ministère et tu en fais ta carrière, la vie est fun et il y a de la joie à servir l'Éternel. Mais ça commence dans les larmes. Ça commence dans la douleur. Hélas, il n'y a qu'une chose que vous devez retenir de ce soir, c'est celle-là. Ne fais pas ce qui te plaît. Mais la société dans laquelle tu as grandi, elle t'a dit que le point ultime du succès, ah, si seulement je pouvais faire ce qui me plaît. Moi, je suis en train de te dire, ne fais pas ce qui te plaît. Fais ce qui te déplaît. Vous savez, j'ai eu une révélation cette semaine. Je finis par ça. La raison pour laquelle tu ne dois pas faire ce qui te plaît, c'est parce que Dieu ne t'a pas forcément donné les aptitudes, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, pour faire ce qui te plaît. Je vous donne un exemple concret. Regardez les émissions de chant, style Nouvelle Star. Ces personnes veulent faire quelque chose qu'elles ont vraiment à cœur. Ça leur plaît le chant, ça leur plaît la chanson. Mais il faut que quelqu'un leur dise tôt ou tard qu'elles ne sont pas faites pour ça. Donc quand tu cherches à faire ce qui te plaît, Dieu ne t'a pas forcément donné les aptitudes naturelles et spirituelles pour l'accomplir. Ah, en revanche, retenez ceci s'il vous plaît. Quand tu fais et tu vas changer ce qui te déplaît dans ton cœur, Dieu t'a déjà donné les aptitudes pour le faire. Ouh ! Si vous retenez ceci, vous avez tout compris. Quand tu corriges ce qui te déplaît dans ton cœur, je ne parle pas de faire quelque chose qui déplaît à nos aptitudes, je parle de quelque chose qui déplaît à notre cœur. Quand tu fais ce qui te déplaît avec ton cœur, Dieu t'a donné, déjà donné, les aptitudes, la grâce, l'onction, les capacités, les aptitudes, les dons pour corriger ce qui déplaît à ton cœur. Donc ne cherche plus ce qui te plaît. Cherche ce qui te déplaît et ton ministère sera de transformer ce qui te déplaît en quelque chose qui plaît à ton cœur. Et là, tu as débloqué quelque chose. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir? Vous voulez vous lever? Je vais prier pour vous. Je vais prier selon Proverbe 19, verset 21. La Bible dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais mon désir, c'est que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplisse dans votre vie. Est-ce que vous êtes d'accord que je prie ça pour vous? Père, je prie dans le nom de Jésus. Il est vrai que dans notre cœur, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, peut-être beaucoup d'ambitions, beaucoup de choses que tu places en nous et qui sont en train d'être remuées. Mais en même temps, les temps s'accélèrent. Les temps de Dieu s'accélèrent. Les choses bougent à l'échelon mondial. Financièrement parlant, sécheresse, famine, inondation, cyclone. Père, nous n'avons plus une minute en tant que disciples de Jésus-Christ, nous n'avons plus une minute à perdre. C'est l'heure que chaque croyant devienne disciple. C'est l'heure que chaque disciple mette de côté les projets de son cœur et laisse primer le dessein de l'Éternel dans sa vie. Et nous avons découvert ce soir que le moyen de débloquer le dessein de l'Éternel dans sa vie, c'est de trouver sa misère. Peut-être que c'est la misère dans laquelle on vient, peut-être que c'est la misère qu'on voit avec les yeux, peut-être que c'est la misère qu'on voit avec le cœur. Mais Père, je te demande maintenant, par ton Saint-Esprit, que chacun puisse identifier dans son cœur quelque chose qui le fait pleurer la nuit. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui seront appelés selon nos projets ou son dessein? Selon son dessein. Quand tu rentres dans le dessein de Dieu pour ta vie, Dieu travaille à ce que ses desseins s'accomplissent. Mais lorsqu'on essaye de mettre en place juste nos petits projets, juste nos petites idées, Dieu n'est pas derrière et il ne peut pas l'approuver. Mais il approuvera le dessein qu'il a dessiné pour toi. Et Père, ce message, c'est un message clé. C'est un message où chacun doit répondre à cette question. Quelle est ma misère que mon ministère va changer? Je répète, quelle est ma misère que mon ministère va changer dans le nom de Jésus? Et je prie que chacun trouve son ministère dans l'église locale, mais je prie aussi que chacun trouve son ministère en dehors de l'église pour qu'il puisse servir le monde et servir l'humanité avec les dons, les talents, les capacités, les aptitudes naturelles et spirituelles que tu leur as données. Et vous savez quoi? Le ministère de Jésus est né pour répondre à notre misère. Dieu nous a créés dans la bénédiction. Mais quand Dieu a vu l'humanité sous la malédiction, ça lui a tordu le cœur. Ça lui a tordu et ça l'a fait pleurer. Il a dit, je ne vais pas rester insensible à voir mes bien-aimés sous la malédiction alors que je l'ai créé sous la bénédiction de l'Éternel. Je vais envoyer mon fils Jésus et son ministère consistera à changer leur misère pour que la restauration de la bénédiction de l'Éternel soit à nouveau sur eux. Galates 3 nous dit qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi afin que la bénédiction d'Abraham puisse à nouveau couler dans notre vie. J'ai écrit une prière qui va s'afficher. Et si vous êtes d'accord avec cette prière, on va la prier ensemble. Elle dit que « Seigneur Jésus, par ton ministère, tu es venu me secourir de ma misère. Tu m'as racheté de la malédiction de la mort, du péché, de la maladie et de la pauvreté, afin que je puisse obtenir la vie, la justice, la guérison, la provision divine. Je décide de me détourner de mes anciennes voies, de sorte à honorer ce que tu as fait pour moi. Je crois en l'œuvre de la croix. » Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Si vous êtes d'accord avec cette prière, est-ce qu'on peut la prier ensemble? Seigneur Jésus, par ton ministère, tu es venu me secourir de la misère. On peut le faire ensemble. Tu m'as racheté de la malédiction de la mort, du péché, de la maladie et de la pauvreté, afin que je puisse obtenir la vie, la justice, la guérison et la provision divine. Je décide de me détourner de mes anciennes voies, de sorte à honorer ce que tu as fait pour moi à la croix. Je crois en l'œuvre de la croix. Amen.